là, ce qui est intéressant, là, ce que je viens de ressentir un petit peu dans les interventions, c'est les contradictions qu'il peut y avoir en fait, quand on parle de l'Union européenne, en fait, sur tous les points, en fait, sur tous les domaines, on parle d'économie, enfin, voilà, pour certains, l'Union européenne, c'est vraiment le symbole de la paix, de l'avancée, pour d'autres, c'est vraiment l'objet de tous les rejets. Et en fait, en matière de migration, finalement, on observe aussi des contradictions avec finalement un droit européen qui, comme l'explique Catherine, peut être un levier, peut apporter des avancées, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui, quand même, garantit des droits essentiels. Et en même temps, on a des politiques aujourd'hui, actuellement, du départ de l'Union européenne qui sont basées sur cette idée un petit peu d'invasion, qui joue avec aussi les peurs des citoyens, qui est un peu l'objet aussi d'instrumentalisation politique. Et donc, on a voilà, toutes ces contradictions entre l'Europe forteresse, qui empêche enfin, différents dispositifs, les projets en général, de venir sur son territoire, et en même temps, une Europe qui peut être aussi source parfois de projets, de projection des droits fondamentaux. Je trouvais que Gatine pouvait compléter un peu l'intervention, commencer tout à l'heure pour aller un peu plus sur cette contradiction d'un côté, un endroit qui peut être émetteur ou définitif qui peut apporter une amélioration, et de l'autre. On voit aujourd'hui, quand même, l'échec, enfin, en tout cas, on peut critiquer ces politiques qui sont fondées quand même sur une logique sécuritaire et répressive.
Alors, je ne sais pas, mais moi, ce que je vous propose de faire, si vous le souhaitez, parce que souvent, en définitive, ce dont je m'aperçois fréquemment, c'est qu'on parle de choses sans savoir en fait de quoi on parle. Donc, ce que je propose peut-être très rapidement de revenir, c'est quoi cette politique européenne de droit des étrangers, c'est-à-dire comment l'Europe légifère, en quoi elle légifère. Parce que très souvent, on ne sait pas en fait ce qu'elle fait en la matière, et du coup, on ne peut pas en tant que citoyen, ou en tant que citoyen, on ne peut pas correctement mobiliser les politiques, parce qu'on ne sait même pas sur quoi vont pouvoir agir les politiques. Et c'est vrai qu'en matière de droit européen des étrangers, on entend beaucoup de choses qui sont quand même très souvent totalement erronées. Et de plus en plus, parce que c'est un débat qui est tout à fait instrumentalisé par les hommes politiques de tous bords d'ailleurs, et du coup on vit avec des espèces de fantasmes absolus et des impressions qui sont fausses. Et très souvent sur le terrain particulier qui nous intéresse aujourd'hui du droit des étrangers, eh bien, c'est souvent, bien sûr, la faute de l'Europe. Et c'est vrai, je vous l'accorde, que l'Europe a fait beaucoup de choses qui sont absolument critiquables. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, l'Europe, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, ce qu'on vous a dit avec M. Tavares, l'Europe jusqu'à présent, quand elle légiférait en matière de droits des étrangers, elle le faisait sans aucun contrôle démocratique. Donc toute la législation qui a été adoptée depuis 1995 en la matière, c'est une législation, c'est un compromis. Entre États, on revient à cette idée de compromis qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été adopté. Et le compromis s'est fait très souvent, comme je le disais tout à l'heure, à une. Et en partant surtout de cette idée que, certes, on voulait développer cette libre circulation entre gens bien, c'est-à-dire entre ressortissants communautaires, mais surtout, on voulait une immigration zéro, pour ce qui concernait ce que l'on appelle aujourd'hui en sortissant des matières, c'est-à-dire les étrangers aux pays de l'Union européenne. Donc si on revient un petit peu, et puis je vais aller très très vite sur le contenu de ce droit européen des étrangers, et il s'est déployé sur trois volets pour l'essentiel. Un encadrement de l'immigration légale, tout d'abord, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet qui est très important aujourd'hui, c'est la lutte contre l'immigration illégale, et c'est le volet principal. Et le troisième volet, c'est l'asile. Vous voyez, il y a vraiment ces trois domaines qui sont importants. Alors, le premier volet, c'est vraiment le volet le plus important au départ, c'est l'immigration légale, et en fait, c'est la politique des visas et des poursuites. Et ça, pour le coup, pour la politique des visas et pour la réglementation des cours séjour, c'est une matière où l'harmonisation est la plus poussée en Europe. On est arrivé quasiment, si vous voulez, à une harmonisation complète en la matière. Les États n'ont quasiment plus de compétences en la matière. Ils délivrent tous, les États Schengen, les visas Schengen, dont les effets se déploient sur l'ensemble du territoire Schengen. Ces visas répondent à des caractéristiques communes, non seulement dans leurs conditions d'attribution, mais également dans leur forme et dans les effets qu'ils déploient. Quant au déplacement, notamment intracommunautaire, si vous voulez, qu'ils permettent. Voilà, ça c'est une politique essentielle qui a été mise en place dès la Convention d'application Schengen et, si vous voulez, qui a été consolidée par la suite. Ensuite, de manière beaucoup plus modeste, la politique d'immigration légale comprend aussi l'encadrement des longs séjours. Mais dites-vous bien que cette politique, elle est super minimaliste. Elle est super minimaliste, pourquoi? Parce que les États ont voulu que ça reste de leur compétence. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte tout simplement d'immigration zéro. Donc le long séjour, on n'en veut pas. Donc on le laisse de la compétence des États et on ne s'en occupe pas au niveau européen. Simplement, il y a une donnée qui est importante, c'est que l'on sait, enfin, il y a deux choses qui sont importantes, on sait que l'évolution démographique va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir s'en sortir comme ça, et qu'on va être obligé de poser des frontières, parce que les données démographiques sont telles qu'elles sont, et tout le monde le sait à la Commission européenne, mais ça, surtout, en le disant, on n'en parle pas, parce que politiquement, si vous voulez, c'est pas bien. Et du coup, en fait, le long séjour, au niveau européen, on va l'envisager sous deux angles. On va l'envisager sous un angle très défensif, ça va être la gestion de l'immigration familiale, parce qu'un des moyens, mis à part l'asile, d'arriver légalement sur le territoire européen, c'est de faire partie de la famille d'un migrant. D'accord? C'est toutes les directives, regroupement familial, etc. Donc là, la politique européenne, elle est en effet super défensive et elle essaie de réglementer au maximum cette immigration familiale. Et ensuite, de manière assez novatrice, il y a ce que l'on appelle, vous savez, la législation qu'on a adoptée récemment dont on parle, de l'immigration choisie. Vous savez, c'est la grande politique de Nicolas Sarkozy quand il assumé la présidence de l'Union européenne à l'époque, et qu'il a développé cette thématique-là. Ça répond à un besoin, et on a mis en place non seulement une directive sur l'immigration à fin d'études supérieures, et également, de manière récente, en 2009, on a mis en place ce qu'on appelle la carte bleue européenne, c'est-à-dire, c'est l'équivalent de la green card aux États-Unis, c'est permettre une immigration dans des métiers très hautement qualifiés et très ciblés. Mais alors, il faut lire les directives, c'est vraiment ultra défensif, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver dans cette carte bleue, ils peuvent l'avoir pendant un an, et puis surtout, il ne faut pas qu'ils aillent avec leur famille, et puis surtout, cela, enfin, c'est encore une fois très défensif. Donc voilà pour le volet, si vous voulez, immigration légale. Le deuxième volet, je voulais dire, c'est l'immigration illégale. Et alors là, on sort l'arsenal et c'est vrai que c'est une Europe forteresse que l'on a construite. L'immigration, la lutte contre l'immigration illégale, vous savez, c'est tout ce qu'on a mis en place. Toute cette politique de fichage, en fait, des étrangers qu'on a mis en place, c'est notamment le système d'information Schengen. Je pense que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le CIS, c'est-à-dire qu'on a mis en place une base de données entre tous les États membres du système Schengen, où on fiche systématiquement, en fait, toutes les entrées dans le territoire communautaire. Donc là, on est vraiment sur une politique sur une politique défensive. Et puis, dans cette lutte contre l'immigration illégale, vous avez tout ce qui est contrôle aux frontières. Donc, a non seulement en un le système d'information Schengen, mais on a aussi des politiques opérationnelles qui sont menées notamment par deux agences, l'agence Frontex, dont on parle beaucoup, dont l'action est menée vraiment dans une opacité totale, parce que là, on est dans une agence, donc les actes de cette agence ne sont pas soumis à un contrôle démocratique ou à un contrôle juridictionnel, donc c'est très problématique, parce que c'est Frontex aujourd'hui, là, si on dit, on pourra y revenir, mais le Frontex ne fait que coordonner les actions nationales. Il y a aussi, dans cet aspect de lutte contre l'immigration illégale, là, tout ce qui est très hypocritement mené dans la politique de développement de l'Union européenne, avec des États, vous savez, avec lesquels on dit, en fait, une gestion, une externalisation de notre contrôle aux frontières, vous savez qu'avec la Libye, notamment, on a eu des accords qui sont très problématiques. Mais c'est vrai que l'Union européenne mène des politiques, notamment des accords de réadmission avec de nombreux États, notamment du Maghreb, de l'Est européen, en la matière. Donc on pourra un petit peu développer là-dessus. Le troisième volet dont je vous ai déjà parlé, c'est le volet asile. Parce que l'asile, comme je vous le disais, c'est entre... pour l'Union européenne et pour les États membres de l'Union européenne, l'asile, c'est entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Parce qu'en fait, le demandeur d'asile va être vu comme un faux demandeur d'asile. Il est considéré désormais, le demandeur d'asile, le potentiel réfugié dont vous parlez, Rui Tavares, il est vu véritablement comme un faux demandeur d'asile. Dans toute la politique d'asile aujourd'hui, ou quasiment toute la politique d'asile telle qu'elle a été menée dans les années 2000, c'est fait avec cette idée, si vous voulez, de défense contre le faux demandeur d'asile. Et le système Dublin, vous savez, la Convention Dublin, qui est entrée en vigueur en 1997, puis le règlement Dublin de 2003 qui a été revu en juin dernier, c'est exactement ça. C'est essayer d'instaurer un guichet unique et un examen unique de la demande d'asile, mais pour éviter ce qu'on a appelé, l'expression est terrible, l'asylum shopping, c'est-à-dire le fait pour, on est parti du principe que les demandeurs d'asile, de toute façon, aller en France, en Allemagne ou en Suède parce que la situation est que statistiquement, ils ont beaucoup plus de chances d'obtenir l'asile dans ces États-là, tandis qu'en Grèce, les statistiques sont terribles. Dans d'autres États, les statistiques sont terribles. Donc surtout, il ne faut pas aller là-bas demander asile. C'est vraiment une manière de voir les choses qui est absolument terrible. Et on a essayé de revoir un peu plus posément et un peu plus... humainement, la situation de l'asile dans le paquet qui a été réformé récemment. Mais dites-vous bien que les progrès ont été quand même tout relatifs, parce que même si le Parlement européen, et Rui Tavares a été, je tiens à le souligner en son absence, mais ça a été l'un des parlementaires qui s'est le plus battu sur la question, avec Sylvie Guillaume du Parti Socialiste aussi, c'est des parlementaires qui ont été très actifs pour essayer de contrer la volonté des États, mais alors la phase d'armes a duré, le paquet asile devait être adopté en 2008-2009, il a été l'an dernier, en juin dernier, ça a mis du coup beaucoup de temps à se mettre en place. Donc quand on voit ce contenu de la politique européenne en matière de droits des étrangers, c'est une politique qui est conséquente, dont on ne parle pas, et c'est pour ça que je tenais à faire ce déplacement aussi dans ce débat-là, parce que cette politique-là, elle est désormais dans les mains de nos parlementaires européens. Beaucoup de compétences sont maintenant, s'exercent au niveau européen, et ça signifie qu'il faut peut-être qu'on arrive à, je ne sais pas comment, mais il faut arriver à changer un petit peu les perspectives sur l'immigration et sur la manière dont on le perçoit aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, notamment avec Frontex, même l'initiative Eurosur il n'y a pas longtemps, ne sont pas des perspectives
qui me paraissent aller dans le bon sens. Donc voilà, très rapidement, ce que je voulais dire et revenir un peu sur ce contenu, parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas trop de quoi on parle, et ça vous montre bien que c'est vrai que ce que fait l'Union européenne, alors très souvent, c'est pas une partie active, il y a une marche de manœuvre pour les États, mais il y a beaucoup de choses, la politique des visas aujourd'hui, ne se dissimule plus au niveau national, ce n'est pas vraiment arrêter aussi un petit peu les fantasmes sur la question.